InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Grégoire Saint-Olive, qui est le co-gérant du chez du même nom, Saint-Olive à Lyon. Bonjour Grégoire.
Bonjour Alain.
Alors racontez-nous cette belle histoire de chez Urbain. Ça commence en 2014 avec le frangin, Franck, qui est votre activité de négoce.
C'est ça, absolument. Alors, on a démarré en 2014, comme vous dites, d'abord avec un négoce de vin. Tout ce qu'il y a de plus classique, en fait. Hein, on achetait des raisins auprès de producteurs.
Et pourquoi le vin? Votre famille est déjà dans le vin depuis 17 générations?
Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Je me suis formé dans le sud de la France, à Bandol.
Belle région, Philippe Orbach, que vous appréciez, absolument. Philippe.
Chez qui, à Bandol?
Chez Cédric Gravier.
Ah oui, très bien. Très bien.
Copain, la Suffraine,
ouais, absolument. Très beau domaine.
Excellent domaine, et donc qui m'a appris pas mal de choses.
Notamment la maîtrise du Mourvèdre.
Absolument, super cépage, excellent. On n'a pas à Lyon, mais bon, on a d'autres cépages.
Pas encore, on ne sait jamais avec le réchauffement climatique.
Oui, ça va venir.
Ça remonte à la surface.
Et puis, depuis l'en aiguille, du coup, moi j'ai toujours travaillé dans le milieu du vin, à l'étranger notamment, et puis un peu à Paris aussi. Et puis ce négoce de vin est venu, le négoce de vin, parce que je voulais revenir à la prod. Et donc Franck, lui, mon frère, qui était un passionné de vin depuis toujours, a décidé de s'associer avec moi pour créer ce négoce.
Trop dur de bosser en famille?
Non, pas du tout.
Vous engueulez comme une fois par jour, dites-nous là.
Bah, assez peu, en fait.
Non,
parce qu'on est hyper complémentaires, donc on s'engueule pas. Bon. Les sujets sont mis sur la table, ils sont discutés et ils sont étudiés et après ils sont tranchés.
C'est génial ça. Hélène.
Alors, Franck travaillait aussi dans le monde du vin auparavant?
Non, Franck, lui, c'est une reconversion. En 2014, du coup, hein, quand il s'associe avec moi pour créer la marque Saint-Olive Frères, qui était notre première marque de négoce. Et puis, il gardait son boulot. Lui, travaillait plutôt dans le privé, dans des sociétés un peu diverses et variées.
Mais pas dans le vin. Contrairement à vous.
Contrairement à moi. Et puis, en 2016, il a décidé de quitter sa société pour s'associer à 100% avec moi dans le côté opérationnel, parce qu'on avait besoin de se développer. Et donc là est venu le projet du chez Urbain pour se développer, parce qu'on avait vite compris que finalement, vinifier chez des producteurs avec leurs raisins, ça allait vite avoir ses limites. Et donc, on s'est dit qu'on allait avoir besoin d'avoir notre propre outil de production. Et pour éviter d'être comme tout le monde, d'être noyé dans la masse de tous les grands, petits et excellents producteurs qui sont partout en France, et notamment en Vallée du Rhône,
absolument.
On a décidé de s'installer à Lyon, notre ville natale, pour développer donc ce concept de chez Urbain, qui existait déjà, hein, d'ailleurs. Hein, on a pas...
Ça remonte à quand? Aux États-Unis, non? San Francisco, il n'y a pas des choses par là?
Ouais, c'est ça. Ouais, les premiers chez Urbain, c'est les États-Unis. Hein. À la base, c'était les Américains qui ont décidé de se rapprocher en fait des consommateurs, parce qu'ils avaient pas mal de difficultés en fait à vendre leur vin sur leur marché, parce que leur vin était assez méconnu du grand public. Donc, ils sont décidés d'aller au contact en fait, hein, dans les grandes villes des consommateurs. Et donc, ils ont créé des chez Urbain.
Philippe Orbach.
L'origine des chez Urbain, il faut le savoir quand même, c'est la prohibition. Hein. Les Américains faisaient du vin à la maison, parce que c'était interdit. Exactement, c'est des vins de baignoire.
Oui, c'est ça.
Baignoire,
exactement, parce qu'ils faisaient ça où ils pouvaient. Donc,
Grégoire est un coquin, c'est ce que vous voulez dire. Quoi.
Voilà.
Et son frangin aussi. Quoi.
Donc, c'est pas étonnant que ce soit les Américains qui montent ensuite exemple des créations des premiers chais urbains.
Mais d'ailleurs, la méthode de faire du vin à la maison est toujours très, très répandue. Moi, je me souviens que la première fois que je suis allée dans le Vermont, il y a 25 ans de ça, je voyais ça comme étant à 5 km du Canada, donc franchement pas une terre de vigne. Et je suis arrivée chez des gens qui m'ont dit « Tu veux goûter notre vin ?» Je fais « Ouais, super, il est où votre vignoble ?»« Ben, il est là !» Comment ça? Et ils achetaient du raisin en masse et
oui,
ils faisaient,
bien sûr.
Et ils faisaient du vin dans leur cuisine.
Mais c'est tendance, Grégoire, non? Parce que pourquoi vous n'avez pas pris un en dehors de la ville? Parce que ça coûte moins cher. Là, à Lyon, je ne connais pas le prix du mètre carré, mais enfin, c'est quand même passé chez Rouen.
En fait, on voulait être dans Lyon, parce que toute l'idée d'un chez Urbain, c'est d'être au centre de la ville, au cœur de la ville, avec les difficultés hein, qui sont associées à ça. À Lyon, il y avait évidemment plein d'autres possibilités d'être en périphérie. Hein. Je pense à des villes comme Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Vénissieux, où effectivement, le prix du mètre carré est bien moins cher, mais on n'était pas à Lyon.
Oui.
Voilà. Bien qu'on soit à côté, on n'était pas à Lyon. Et donc, on allait chercher cette difficulté. Hein. On a cherché un local pendant pas mal de temps. Hein. On en a visité des tonnes, vous imaginez bien. Et puis, on est tombé sur celui-là. On a tout refait, on a tout cassé.
Vous l'avez acheté?
On loue.
D'accord.
On loue. Mais ça fonctionne bien parce que finalement, le prix du mètre carré, certes, n'est pas donné. Mais on s'en sort plutôt bien parce qu'on lie aussi notre activité de vinification à l'activité événementielle.
Événementielle, c'est ça. Hélène?
Donc, effectivement, cet endroit que vous louez, il est au 34 rue Malesherbes, à Lyon.
Le fait de louer le loup à Lyon, c'est cohérent, quoi.
C'est cela.
Pour les amateurs de rugby, évidemment. Oui.
Voilà. Donc, tout près des quais de Saône. Effectivement, vous ne pouvez pas être plus...
Quai du Rhône. On est
proche du Rhône. Il y a beaucoup situé. Trop de fleuves à Lyon. Il faut arrêter.
C'est ça. Il y en a trois. Il y a le Rhône, la Saône
et le Beaujolais.
Et le Beaujolais. On l'a tous.
Non, mais pour Hélène Piau, il y a la Seine à Paris. C'est bon, là, au moins, on comprend.
Non, mais bon, il faudra que je revoie ma géographie lyonnaise. On est d'accord.
En même temps, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, le Rhône et la Saône.
C'est vrai. C'est vrai.
Arrêtez de l'aider, là, Philippe.
Et donc, ce chai, effectivement, vous y faites plusieurs choses. Parce que, en effet, donc, vous y faites votre vin. Et puis, vous vendez également les vins des vignerons chez qui vous fournissez.
Oui.
Et ça, c'est plutôt très chouette parce qu'au lieu de tout ramener à vous, vous ouvrez la porte à plein de gens. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, ces raisins que vous achetez, il y a quatre cépages. Les quatre cépages autour de Lyon, on va dire.
C'est ça, absolument. Donc, en blanc, chardonnay et viognier. Chardonnay qu'on récolte bien évidemment dans le Beaujolais, le Viognier donc sur les terroirs au sud de Lyon entre Malval et au plus loin Sarra, donc la commune qui est dans les Saint-Joseph en fait hein, finalement. Et puis Syrah et Gamay. Donc Gamay encore une fois dans le Beaujolais, et la Syrah vallée du Rhône Nord.
Voilà. Et donc, vous les achetez chez 7 ou 8 domaines, c'est ça ?
Oui, tout à fait, 7 ou 8.
Allez, on va les citer. Comme ça, à Capella, vous les avez ?
Allez-y, après, on fera les crus du Beaujolais.
Alors,
donc, allez-y.
Hubert Cinquin en Beaujolais, Christophe Subrin également en Beaujolais, Jean-Michel et Viviane Tournissou en Beaujolais toujours. Puis, en Vallée du Rhône, nous avons la famille Gaillard, Pierre Gaillard, avec...
que l'on embrasse.
Jeanne aujourd'hui.
Avec qui on travaille beaucoup. Nous avons également Ludovic et Emmanuel Courbis, qui sont sur Mauve. Nous avons un vigneron qui, lui, est situé donc, à Sarra, où on se fournit en Viognier, qui s'appelle Éric Rocher, vignoble Rocher.
Voilà.
Et pour finir, nous avons également une petite appro chez Yves Curon.
Voilà, un petit vigneron qui démarre.
Que des stars. C'est bien.
Pas très, très connu.
Et acheter un jour votre vignoble, vous n'avez pas envie un peu d'acheter des vraies vignes à vous ?
Si, c'est des idées de développement, bien sûr. Hein. On aimerait avoir nos propres vignes, évidemment. Néanmoins, on a aussi cette liberté aujourd'hui de pouvoir aussi aller chercher du raisin en fonction des millésimes, comme bon nous semble.
Et les vignerons étaient spontanément d'accord pour vendre du raisin, parce que non ?
Si. Déjà, on arrive avec un projet qui est différent des autres projets, évidemment. Et puis, comme vous vous rappelez tout à l'heure, Hélène, on est transparent sur la façon dont on travaille, avec qui on travaille. Tous les vignerons qui font du vin, on les représente, on les vend à Lyon, hein, on parle d'eux, ils sont tous en photo chez nous. Que ce soit Christophe Subrin, qui est peut-être un peu moins connu, mais que Yves Curon, évidemment, mais ils sont tous là. Et si vous voulez, c'est des vignerons qui adhèrent un peu à ces projets-là et qui accompagnent aussi des projets comme le nôtre, en fait.
Donc ça, c'est effectivement chouette de pouvoir travailler main dans la main. Alors eux, ils ont des appellations et des noms connus, mais vous, alors ils ont quoi comme appellation vos vins ?
Bah, Saint-Olive, c'est connu hein, depuis 2014.
Vin de France, ouais. Oui, c'est ça. Oui, non mais d'accord, mais l'appellation Saint-Olive n'a pas encore été créée, mon cher Alain.
Il faut y penser, Grégoire.
Alors on va en parler à l'INAO, mais dans l'immédiat.
Et alors vous avez quoi, une gamme avec des monocépages, un peu d'assemblage ? Vous êtes organisé comment ?
Monocépage sur les 4 cépages qu'on travaille. Chaque cépage est vinifié une fois en version 100% cuve inox. Pour des vins frais, croquants, accessibles, faciles à boire, quoi, en fait, hein, à boire dans l'année. Et puis, on a ces quatre mêmes cépages qui proviennent d'autres parcelles de vignes, d'autres terroirs, qui sont destinés à être vinifiés, du coup, en fût de chêne, sur place également. Et donc là, du coup, ça fait une gamme
tout
de
ça,
vins.
Tout ça, c'est sur place.
Tout sur place,
ouais. Et là, ça coûte combien pour installer ça ? Si demain, quelqu'un veut faire la même chose, je sais pas, à New York ou à Perpignan, par exemple.
Indépendamment du foncier.
Oui, indépendamment du foncier. L'installation pour une petite winery urbaine comme ça.
On a fait des gros travaux parce que finalement, on partait d'un local qui était à la base des bureaux, donc on a dû tout créer, hein, les évacuations.
Le propriétaire a dû être surpris quand même, non ?
Et au début, il était un peu étonné, ouais. Il s'est demandé ce qu'on allait faire chez lui, et puis finalement, il a assez vite adhéré au principe, au concept. Hein. Il a même bien aimé, c'est un type qui aime bien le vin aussi, donc ça nous a évidemment bien aidé. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Et pour répondre très concrètement à votre question, Alain, c'est aux alentours de 600 000 euros l'investissement.
D'accord, donc si quelqu'un veut faire dans une ville de France pour avoir un outil un peu sympa, ça coûte 600 000 balles.
Ouais, alors après, évidemment, on peut faire un peu moins cher.
Mais c'est intéressant.
Ou à l'inverse, bien plus cher, un peu plus clinquant.
Et alors, vous les vendez combien, les bouteilles, là, parce qu'il faut quand même rentabiliser tout ça.
Alors, on a deux cuvées, absolument. Notre première cuvée, qu'on a baptisée 480, pour la petite anecdote.
480 euros ?
Non. Non. C'est le nom de la cuvée. Ouais. Et donc cette cuvée 480 en référence à la longueur de la Saône, c'est une cuvée qu'on vend en prix public TTC 11
euros. 480 euros la longueur de la Saône.
480
kilomètres.
Ah bon, d'accord.
La Saône fait 480 kilomètres et voilà, et c'est le nom de l'une des gammes.
Il y a un prix spécial pour les auditeurs de ce radio.
Absolument, oui.
La deuxième gamme va vous faire bondir, Alain, parce
combien
que c'est la gamme 812.
812.
Non, c'est pas 812 euros non plus.
Non, non, évidemment. Et donc la gamme 812 qui, elle, pour le coup, est vinifiée en fût et élevée en fût. Elle est à 20 euros. TTC prix public chez nous. Chez
20 euros. Et alors localement, là, vous vendez tout ça à Lyon, vous exportez ça, vous sortez un peu de la région.
On n'exporte pas encore. On vend beaucoup à Lyon auprès des restaurateurs, cavistes, particuliers, bien évidemment. Mais on commence à chercher à regarder un petit peu l'export aussi. Forcément.
Combien de bouteilles vous vinifiez en moyenne?
30 000 par an.
30 000. En tout cas, c'est super ce que vous faites. Franchement, Hélène et Philippe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut aller les voir. Vous êtes ouvert quoi, 7 sur 7, y compris le 1er janvier à 8h du mat ou pas?
Oui, on pourrait l'être.
Hein, ouais, vous n'avez pas une tête à être à 8h du matin le 1er janvier.
C'est lundi au samedi.
Ils n'ont pas encore fermé à 8h du matin.
Ils n'ont pas encore fermé. Alors, et donc, il y a des visites, des dégustations, il y a plein de choses, hein, c'est ça?
Absolument, c'est ça.
On peut faire plein d'ateliers pour s'initier au vin. Et on les fait notamment à la rencontre de Marie-Audi, qui est la maître de chez.
C'est
très important. De chez, parce que les deux frangins ne font pas tout seuls. Hein, donc il y a une maîtresse de chez, Marie-Audi, qui accueille tout le monde avec grand plaisir, donc, notamment dans un atelier Vie ma vie de maîtresse de chez.
Bon, très bien. Le site, c'est quoi? C'est
chezsaintolive.com.
Répétez-le plus doucement parce que là, on n'a pas compris.
www.chezsaintolive.com.
Merci beaucoup, Grégoire. Merci également, Hélène et Philippe. On marque une petite pause et puis après, on revient pour le Vino Quiz.